Voici, mesdames et messieurs, le 4e épisode de ma série de podcasts consacré à l'année 1973. Au programme, le Larzac en lutte, le plastique qui est fantastique, parole de boomer, la crise pétrolière qui sonne la fin des Trente Glorieuses, les jeunes Français qui se rencontrent encore dans des balles et les commerçants tentés par l'autodéfense.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1973.
Début de l'année 1970, le gouvernement annonce l'agrandissement du camp militaire du Larzac. Il sera 5 fois plus grand. Enfin, en principe, parce que plus de 100 paysans du Larzac refusent l'expropriation. Et leur combat trouve du soutien dans toute la France. Celui, par exemple, de cet archéologue, Louis Blason.
J'explore le Larzac depuis plus de 50 ans. J'ai étudié tous ces monuments, j'ai fait des fouilles préhistoriques partout. C'est un milieu extraordinaire, unique en France, par la superposition des civilisations, comme par le... C'est pas une conjonction de toutes ces civilisations. Et la présence du camp du Larzac va tout détruire. Point de vue touristique, la route nationale est numéro 9, est un des grands axes du centre de la France et de Paris vers le Languedoc. Et ça sera une catastrophe pour le tourisme, parce qu'un camp militaire ne favorise jamais le tourisme. Et ça sera pour le Languedoc comme pour l'Aveyron, catastrophe.
Qu'un archéologue soit opposé à l'extension d'un camp militaire, d'accord. Mais chez les opposants, on trouve aussi un militaire, un général, le général Jacques Parry de la Bollardière, membre actif du mouvement pour une alternative non violente.
Je suis concerné d'abord en tant que citoyen, parce que le camp du Larzac, le projet d'extension du camp du Larzac, est la conséquence directe d'un choix politique à l'échelon le plus élevé qui engage la vie et l'âme de la nation. Je suis concerné en tant que n'importe quoi, en tant que breton, car je retrouve ici des gens de Titanie qui, comme moi, constatent le véritable, je ne veux pas employer des mots qui font peur, mais le véritable génocide culturel qu'on a fait depuis des siècles en France sur des vieilles régions qui ont une langue absolument admirable, porteuse de valeurs de civilisation absolument fantastiques, qui sont sur les pères. Un appauvrissement absolument terrible pour l'ensemble de la nation.
Et c'est comme ça que, jour après jour, les paysans du Larzac voient monter leur cote de sympathie. Les antimilitaristes de tous bords s'agrègent à la contestation paysanne. Et le 25 août 1973, entre 60 000 et 100 000 personnes venues de toute la France se rassemblent sur le plateau du Larzac pour apporter leur soutien aux paysans. Une sorte de prolongement bucolique de mai 68. Un Woodstock à la sauce aveyronnaise qui commence en musique et se poursuit par une marche pacifique.
La marche du Larzac a été un succès parce qu'elle correspond à une volonté de plus en plus large des gens de France, jeunes surtout et moins jeunes, de lutter contre un système qui les domine de plus en plus et qui conditionne leur vie et en fait finalement de simples robots à consommer.
Est-ce que les paysans, eux, ne se sentaient pas un peu en minorité? Est-ce qu'ils n'ont pas eu l'impression vraiment d'être perdus dans cette masse?
J'ai pas eu l'impression, c'était même assez intéressant de voir les paysans tout à fait à l'aise au milieu d'une foule de gens qui côtoient pourtant pas tous les jours.
Vous avez parlé de fête, précisément, ça ressemblait réellement à un spectacle hier soir.
Oui, mais tout le monde avait l'impression d'y participer. Il n'y avait absolument rien de payant, il n'y avait pas de vedettes, il n'y avait pas... Simplement, il y avait des gens qui avaient des interventions intellectuellement construites à dire, et d'autres les exprimaient d'une autre façon par les chansons.
Une grande fête hippie, où entre deux riffs de guitare, on critique le gouvernement. Le premier jour, aucun débordement et aucun gendarme à l'horizon, juste un hélicoptère qui survole les lieux. Mais le deuxième jour, ça se durcit.
Le folklore de ces dernières heures, qui donnait à la manifestation l'aspect d'une grande fête plus hippie qu'autre chose, a disparu. Les attaques contre le gouvernement ont pris des formes plus directes, et finalement c'est par des avertissements dans le style « Gallet et Marcelin doivent désormais se méfier de nous, car nous sommes prêts à occuper le Larzac tant qu'il le faudra », que s'est terminée cette marche.
Le sujet n'est plus seulement l'extension du camp du Larzac. Les manifestants contestent maintenant la politique sociale et économique du gouvernement. Et d'ailleurs, des ouvriers de l'horlogerie LIP, en grande difficulté, ont fait le déplacement.
La présence ouvrière, la direction des luttes sous l'égide de la classe ouvrière l'ensemble des travailleurs, l'ensemble du peuple qui est ici, les salut. Vive la vague, mais combat. Vive la vague, mais combat.
Cette politisation du mouvement ne plaît pas à tout le monde. Les envoyés spéciaux d'Europe numéro 1 rencontrent un berger qui se méfie de tous ses chevelus.
Il y a longtemps que vous êtes berger ici au Larzac ?
Ça fait 7 ans.
Et qu'est-ce que vous pensez de tous ces jeunes qui sont venus là pour vous soutenir ?
C'est-à-dire que ces jeunes-là, vous voyez, les jeunes, vous voyez, qui n'ont pas d'opinion comme moi, vous voyez.
Mais vous avez confiance en eux ?
Ah non.
Après une longue guerre d'usure menée par les paysans et leur soutien, le projet d'extension du camp militaire du Larzac sera finalement abandonné avec l'élection à la présidence de la République de François Mitterrand en 1981. Le combat du Larzac, néanmoins, fera germer ce qu'on appellera plus tard le mouvement altermondialiste. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. C'était David Bowie en 1973 avec Space Oddity.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1973.
En 1973, la mode du plastique envahit le quotidien des Français. Table en plastique, tabouret en plastique, bouteille en plastique et même arbre en plastique. En 1973, la société autoroutière de la Vallée du Rhône plante 240 arbres en plastique sur une portion de 50 mètres d'autoroute près d'Orange.
Nous avons fait un essai de plantation non pas dans un but de recherche d'esthétique, mais uniquement en vue de rechercher une solution nous permettant d'installer des écrans anti-éblouissants sur certaines parties de l'autoroute.
Ces faux arbres coûtent plus cher que les vrais. On pourrait croire à un poisson d'avril. Mais ils sont bien plantés au mois de juin.
Effectivement, j'ai parcouru ce matin cette portion d'autoroute qui va d'Orange à Nîmes. Et je dois reconnaître que si je n'avais pas vu les véhicules des jardiniers en train de planter ces arbres, j'aurais pu les confondre, d'autant qu'ils sont plantés sur 500 mètres seulement et dans une courbe que l'on doit aborder à 120 ou 140 km à l'heure. Vu de plus près, cependant, leur couleur verte peut surprendre car elle est bien trop brillante. Et de surcroît, il y a deux types d'arbres plantés. Certains ont la forme de bougies de 1 mètre de haut et de 20 cm de diamètre. J'ignore quels arbres ils veulent imiter. Les autres mesurent 1 mètre 40 de haut et ont la forme de sapins, Or, les sapins au milieu des garrigues, il y a bien de quoi surprendre, voire choquer les habitants du coin.
Autant vous dire que les gens du coin sont assez décontenancés par l'irruption de ces arbres en plastique dans leur paysage.
Je trouve ça un peu gros, moi. Je suis un peu époustouflé. Si nos grands-pères revenaient qui voient ça, ils seraient zigouillés, quoi. Ils seraient cisaillés. Moi, si je ne me retenais pas, j'irais les couper. J'ai même envie d'écrire au ministre de l'Environnement.
Ça ferait kiki, ça, mais il me semble. Puis c'est pas un verre naturel, quand même. Et puis, ça me paraît plus dangereux, ces arbres en plastique, là. Parce qu'il y a des socles en béton, quand même. Et tiges en verre, voilà, c'est ça. S'il arrive à une voiture à traverser, ça risque de provoquer d'accidents plus graves encore.
Sur le coup, je crois plutôt une blague. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse, ça? Ils auraient pu planter des cyprès, je sais pas, moi, ici, que c'est un pays plutôt où il y a des cyprès.
Rien ne vaut le naturel, la nature, le bon, l'arbre.
Lorsqu'on est à une campagne actuelle où on est contre la pollution, on est pour l'environnement, on va mettre du plastique. Et pourquoi pas, on ne mettrait pas du béton pendant qu'on y est.
La société autoroutière répond qu'elle ne voit que des avantages à ces arbres en plastique. Coût d'entretien moins élevé, ces arbres ne sont pas inflammables et on peut les changer de place facilement. Mais décidément, personne n'en veut, ni les habitants du coin, ni les élus locaux.
C'est une expérience qui est pour le moins surprenante. On fabrique des quantités de choses en plastique, mais je n'aurais jamais pensé que dans un si joli pays que le nôtre, on arrive à fabriquer une nature en plastique. Je pense à la surprise des botanistes qui vont passer dans notre région. Ils vont dire quelle est cette nouvelle race d'arbres qui vient de pousser là. Ça sera vraiment surprenant. Des arbres. Ne parlons pas d'arbres, parlons de choses en matière plastique. Des choses en matière plastique qui n'auront aucune vie, qui seront incapables de se régénérer de par la nature. Les camions qui passent là-devant vont souiller avec du gazoil, la boue va gicler là-dessus, et ce ne sont pas des arbres, ce ne sont pas des choses vivantes. Ça va devenir affreusement sale au bout d'un certain temps.
Pour cet élu local, interrogé par Europe numéro 1 en août 1973, ces arbres en plastique sonnent carrément le glas de l'humanité.
Nous avons inauguré avec beaucoup de faste cette autoroute il y a quelques jours, et le ministre de l'équipement lui-même, M. Olivier Guichard, nous a dit qu'il fallait humaniser les autoroutes, qu'on allait faire des aires de repos qui seraient certainement parmi les plus jolies des autoroutes européennes. Et alors je suis vraiment très surpris et même scandalisé que l'on mette de la matière plastique, qu'elle ressemble à n'importe quoi, mais de la matière plastique sur le trajet de cette autoroute. C'est la fin du monde.
Il faut dire que dès 1973, on commence à se méfier du plastique. On commence à prendre conscience que le plastique est peut-être dangereux pour la planète.
Comment se débarrasser aujourd'hui des déchets en plastique jetés inconsidérément dans la nature qui se refuse quant à elle à recycler un matériau qu'elle n'a pas enfanté? Le ministère de l'Environnement a chargé M. Jacques Lopion d'une étude sur la question. Nous lui avons proposé, nous, une solution, supprimer complètement l'emballage en plastique.
Oui, c'est une solution qui a l'air d'être radicale. En fait, je crois qu'elle est très fausse, parce qu'il ne faut tout de même pas oublier que si le plastique s'est développé à un tel taux de croissance dans le passé, c'est parce que les consommateurs veulent du plastique. Les commodités offertes par le plastique sont considérables. Et si vous adoptiez une telle solution, vous auriez affaire à une émeute de consommateurs très rapidement.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1973. Money.
avez reconnu Money de Pink Floyd en 1973. Chanson qui fustige l'argent, source du mal.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1973.
L'année 1973 marque pour la France la fin d'une époque. La fin de ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. 30 années de croissance continue depuis la fin de la guerre. La crise pétrolière frappe le monde entier. Et les jeunes Français qui jusque-là étaient assez optimistes ont de moins en moins confiance en l'avenir. Et ça, c'est nouveau. Le magazine Le Point est le premier à le constater.
Eh bien, ce portrait vous surprendra. Vous apprendrez par exemple que ces adolescents sont plutôt moroses et résignés, mais qu'ils jugent normal de manifester pour changer une loi. En revanche, la plupart jugent que manifester ainsi dans la rue, ce n'est pas faire de la politique. D'ailleurs, ils n'aiment pas beaucoup la politique, et puis les trois quarts sont hostiles à la violence dans les manifestations. Vous apprendrez aussi que s'ils sont moroses, c'est surtout à cause de l'école. Ils n'y sont pas heureux. Bien sûr, la majorité ne souhaite pas détruire l'école, car ils comptent sur elle pour les aider à préparer leur avenir professionnel. Mais justement, ils voudraient bien que l'école joue vraiment ce rôle. Et c'est pourquoi ils ont peur de l'avenir. Alors, une jeunesse raisonnable mais triste, c'est effectivement l'image que donnent les premiers résultats de cette enquête qui seront publiés lundi par Le Point. Pensez donc que 2% de ces jeunes disent que se suicider est quelque chose de bien. Un tel résultat est important et inquiétant.
En vérité, en 1973, on en est encore au tout début de la crise. Les 30 glorieuses font encore leur petit effet. Mais la page se tourne vraiment au moment de la guerre du Kippour, quand les pays arabes décident de s'unir pour contrer le soutien américain aux forces armées israéliennes.
Après 25 ans d'hésitation, les pays arabes ont décidé d'utiliser l'arme pétrole. Septembre sera le mois décisif de cette offensive nouveau style. Le roi Faisal d'Arabie en a ainsi décidé. À Alger, les pays non alignés se réuniront d'abord pour entendre les délégations arabes exposer les raisons qui les amènent à engager la lutte contre les États-Unis et contre ceux qui s'associeraient éventuellement à leur politique.
D'un coup, le prix du baril de pétrole s'envole. Il est multiplié par 4. Lors de ses vœux de fin d'année, le président de la République, Georges Pompidou, siffle la fin de la bamboche. Les Français vont devoir se serrer la ceinture.
Il faut reconnaître que la hausse des prix du pétrole aura une incidence sérieuse sur nos prix intérieurs. Il faut le savoir et il faut s'y préparer. Je fais appel et nous faisons appel avant tout à cette vertu traditionnelle, paraît-il, du peuple français, qui est l'esprit d'économie. Économisons l'essence, économisons l'électricité, économisons le chauffage. Et cela seul suffira à diminuer notre consommation et par là même à parer à quelques difficultés d'importation et aussi à atténuer les effets sur la hausse des prix et sur notre commerce extérieur. Que tous les Français veuillent bien, en pareille matière, aider l'action gouvernementale, et mon Dieu, nous arriverons bien, je l'espère, à surmonter les difficultés.
Tout le modèle économique des années d'après-guerre vole en éclats. La crise s'installe. Les habitudes doivent changer. Comme le répète à Europe numéro 1, le député des Hauts-de-Seine et ancien ministre de l'Industrie, Albin Chalandon.
L'augmentation du prix du pétrole, elle n'est pas finie, va amener inévitablement une certaine réduction du niveau de vie des Français. D'ailleurs, les Français, d'une certaine façon, depuis quelques années, vivaient au-dessus de leurs moyens. Et cela nous fournira probablement l'occasion de leur dire et de leur faire prendre conscience de ce phénomène. Ne serait-ce que parce qu'il va falloir travailler plus pour acheter la même quantité de pétrole à l'étranger et travailler plus aussi pour exporter davantage de produits pour pouvoir payer ce pétrole. Il faut probablement voir quels sont les secteurs où on pense qu'il faut agir très rapidement et en priorité, et par, les uns par rapport aux autres. Il n'est pas évident que ce soit aujourd'hui l'automobile qu'il faille favoriser en détaxant l'essence. Peut-être que il faut que les automobilistes roulent un peu moins.
Du coup, comme en France, on n'a pas de pétrole, mais on a décidé. La bicyclette revient en force. Les mollets remplacent le carburant.
Une statistique pour confirmer, 1 million de bicyclettes fabriquées en France en 1968. 2 300 000 selon les estimations pour l'année 1973. Mais pourquoi, au-delà de la crise du pétrole, cette folie, cet enthousiasme pour le vélo?
Si vous faites régulièrement de la bicyclette?
Ah oui, oui, en principe, tous les samedis matin, tous les dimanches.
C'est surtout pourquoi?
Ben, je pense pour rester jeune, beau et peut-être donner une leçon aux jeunes, qui sont dans, pour la plupart des paresseux. Alors déjà dans notre âge, après 50 ans, le troisième âge, je pense que c'est un exemple.
Et dans le marasme de la crise pétrolière, voilà que Paris se lance dans le gigantisme à l'américaine. La tour Montparnasse est inaugurée. 200 mètres de haut, 59 étages, 7200 fenêtres, un poids total de 130 000 tonnes. Au micro d'Europe numéro 1, l'une des premières employées de la tour imagine un quotidien peu engageant.
Du haut de notre tour, on verra des tas de gens, beaucoup, une population assez dense dans ce quartier, mais ce sera difficile pour nous de pouvoir prendre contact avec ces gens, de sortir comme ça pendant 5 ou 10 minutes et puis essayer de faire des achats comme ça. Je crois qu'on sera dans notre tour et on sera un peu enfermé, ce sera difficile d'en sortir. Et puis alors il y a aussi le fait qu'il y aura un couloir qui amènera directement les gens de la gare Montparnasse ou du métro à la tour. Alors je pense qu'on prend le métro, on prend notre couloir, on arrive dans notre tour, on fait 4 heures le matin, on prend notre heure pour déjeuner évidemment dans le restaurant d'entreprise. Ce sera pas le trou noir mais enfin ce sera presque pareil. On recommence l'après-midi, on reprend notre couloir, notre métro et on rentre chez nous. Et c'est la vie comme ça tous les jours de la semaine.
En 1973, la tour Montparnasse est l'immeuble de bureau le plus haut d'Europe. Mais elle est toujours deux fois plus petite que les jumelles du World Trade Center aux États-Unis, inaugurées au même moment à New York.
Europe 1, on de la traconte. L'année 1973.
C'est aussi cette année-là, 1973, qu'une révolution pointe le bout de son nez. Une révolution symbolisée par un coup de téléphone. Le 6 avril 1973, Martin Cooper, qui est ingénieur chez Motorola, appelle son rival de l'entreprise Bell Labs.
Allô, Joël, c'est Martin Cooper à l'appareil.
Ah, salut Martin, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
Devine d'où je t'appelle.
Ben, ton bureau. Allez, dépêche-toi mon vieux, j'ai du boulot.
Je t'appelle depuis la rue. Là, je suis en train de marcher dans la rue, mon gars. T'as raison, je vais te laisser bosser. Bon courage.
Martin Cooper vient de passer le premier appel depuis un téléphone portatif. Enfin, une brique. Une brique d'un kilo et demi, armée d'une antenne de 10 cm. Pour concevoir cet objet, Martin Cooper s'est inspiré de la série de science-fiction Star Trek. L'invention de Martin Cooper sera lancée sur le marché 10 ans plus tard au prix de 3 800 $ pour une autonomie d'à peine 30 minutes. Temps nécessaire pour recharger ce téléphone. 10 heures.
La grande ville mange la ville. La grande ville mange la ville. Marie si belle, Marie Vaisselle, Marie Chandelle, plume d'hirondelle, fleurs sans colline. Fleur en cuisine, Marie sans phare, fleur de brouillard. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait, la 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 la. Si on chantait, la 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 la. Si on chantait, la 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 la. Marie divine, si on chantait. Si on chantait, si on chantait, si on chantait, la 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 la. Si on chantait, la 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 la. Si on chantait, la 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 la. Si on chantait. Ce qui me peine n'est pas que je t'aime. Le temps se lasse. Cœur efface. Parmi les femmes, pourquoi le taire? Celle qui te ressemble, je l'ai.
les préfère. Marie divine, sans mousseline, dans ta cuisine, je t'imagine. Si on chantait, si on chantait, si on chantait.
C'était Julia Clerc en 1973 avec Si on chantait.
L'année 1973.
En 1973, les applications de rencontres n'existent pas, évidemment. Pour rencontrer l'âme sœur, il y a les agences matrimoniales et puis il y a la vie. 13% des mariés se rencontrent sur leur lieu de travail et 16% durant leurs études secondaires. Mais la majorité, plus de 50%, roulent leur première galoche dans un dancing ou dans un bal populaire. En février 1973, Joe Lafrance, dit Monsieur Joe, dirige le Balajo, mythique dancing du quartier de la Bastille à Paris.
Le bal est donc le lieu de rencontre par excellence. On peut se demander pourquoi.
Le bal facilite beaucoup la rencontre. Il est plus facile, par exemple, pour moi personnellement, du temps que j'étais danseur, parce que maintenant je ne peux plus danser avec la position que j'occupe au Balajo, mais du temps que j'étais danseur, il m'était plus facile à moi d'attacher une fille, de connaître une fille, de la prendre dans mes bras, de danser avec, surtout dans un tango. Où c'est beaucoup plus facile que d'avoir une femme dans la rue, ou au cinéma, ou dans un autre endroit.
Dans les balles populaires, les raquettes du samedi, du bleu sur les paupières, tourne, tourne, tourne aussi. Mais là-bas, près du comptoir, en bois, où on danse pas, on est là pour voir un coup, on est là pour faire les fous, et pour se revoir un coup.
En 1973, les bals populaires ont une importance sociale capitale. Mais l'alcool aidant, les bals se terminent parfois en bagarre.
On a dit que ça venait de l'alcool, on a supprimé de l'alcool en vendant toutes des boissons non alcoolisées. Mais toute notre clientèle, quand il n'y a pas d'alcool dans nos bals, amène de plus en plus dans leur voiture des bouteilles de cognac, achète de l'alcool dans les pharmacies. À l'heure actuelle, les jeunes boivent de la bière à 10 à 11 degrés, puisqu'ils achètent de l'alcool à 90 et qu'ils mettent dans des bières de 25. Au lieu de boire de la bière à 3 à 4 degrés, ils boivent de la bière à 11 degrés. Puis, là, les pouvoirs publics n'y peuvent rien du tout. Les gendarmes sont souvent à l'entrée d'un bal. Et ils ne peuvent pas fouiller les clients.
Pour vous, c'est la raison des violences ?
Oh, c'est pas à 100% la raison. Mais enfin, moi, je crois que c'est une des premières raisons.
Elle adore aller au cinéma, et surtout quand elle est avec moi. Elle aime bien danser toutes les nuits, quand elle a bu un peu de whisky. La petite fille 73 a coloré de rouge le bord de ses lèvres, et j'aime bien ça.
Mais personne n'est d'accord sur les raisons de ces bals qui tournent au pugilat. D'accord, il y a l'alcool, mais certains incriminent aussi la musique.
À mon avis, les bagarres dans les bals ne viennent absolument pas de l'alcool, viennent du bruit. Si les orchestres pas baissaient, il y aurait de moins en moins de bagarres. Exemple, il y a quand même une quinzaine d'années, quand on était à l'accordéon, quand on était au musette, vous voyez rarement de bagarres dans les balles. Moi, j'ai fait des entrées de balles tout seul, où il y avait 300 à 400 personnes. Maintenant, quand on est obligé d'aller dans les balles, on est obligé de prendre des appariteurs et d'être toujours 2 à 3 appariteurs à l'entrée. Donc, ça vient du bruit, ça vient pas de l'alcool. Il y a toujours eu de l'alcool dans les balles. Il y a toujours, dans la noce, on repart des anciens combattants, on bat au bal des médaillés militaires. Les médaillés militaires, les balles des pompiers, ne peuvent pas boire de la bière sans alcool, ni de Coca-Cola. Ça n'existe pas. Et il y a toujours eu de l'alcool dans les balles et il n'y avait pas de bagarre. Donc, à mon avis, et à l'avis de tous mes collègues, les bagarres viennent du bruit.
Vous mettez la pop hein, en accusation.
Oh, énormément.
Et voilà, les bals dégénèrent en bagarre à cause de la musique pop. Sur Europe numéro 1, un musicien réclame un retour aux sources, au vrai bal à papa.
énormément de clients de 35 à 40 ans voudraient revenir au bal, n'osent pas revenir au bal avec la musique pop. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de pop, il faut que la jeunesse s'amuse. Mais beaucoup de danseurs nous réclament le tango, la java, la valse musette, la marque, le passo doble, les pot-pourris. Mais bien entendu, avec de l'accordéon et la musique.
Voilà. Dans certains cas, les bandes de jeunes font tellement de dégâts que certaines stations balnéaires choisissent de ne plus organiser de bal, comme Étretat, sur la Côte d'Albâtre.
Alors cette violence, est-ce qu'en tant que directeur d'un casino, d'un établissement public, est-ce qu'elle vous inquiète?
Avec un portier et moi, on est à deux à filtrer à l'entrée, mais ça devient de plus en plus violent. Et ça, c'est venu par la disparition des bals de société qui fixaient justement toute la clientèle indésirable. Il y a eu tellement de bagarres dans ces bals-là que les organisateurs ont dû abandonner. Et maintenant, ça serait parti partout. Vraiment, le samedi soir, je rigole pas.
Et à Étretat, justement, dans la nuit du 19 au 20 août 1973, une quinzaine de jeunes saccagent une boulangerie. Le propriétaire est roué de pain. Son mitron finit la nuit avec un bras cassé. Les commerçants d'Étretat décident de se protéger.
Les gens s'organisent dans chaque quartier pour s'entraider, et au moindre appel, tout le monde descend et rentre directement dedans.
Alors cette forme de violence vous inquiète au fond?
Oui, ça commence à inquiéter tout au moins les gens qui sont calmes. Voilà. Alors il faut réagir, parce que si c'est toujours les mêmes qui prennent, il n'y a pas de motif que les jeunes ne continuent pas, parce que dans le fond, on sait que c'est des jeunes. Il faut simplement les contrer.
Et répondre à la violence par la violence?
Exactement, je pense que c'est la meilleure formule. S'il faut donner des coups, ben, il faut y aller. Pas la peine d'en prendre.
C'est que si on les punissait davantage, eh ben, ça ne se renouvellerait pas. Tout le problème est là.
L'année 1973.
En 1973, les commerçants ont bien du souci. Leurs boutiques sont souvent la cible de braquage ou de pillage. Le 21 mai 1973, la rédaction d'Europe numéro 1 dégote l'histoire d'un commerçant qui, la nuit précédente, a été réveillé par le bruit d'une déesse qui a défoncé sa vitrine.
Vers 4 heures, j'ai entendu une formidable explosion qui était due en marche arrière à une déesse qui m'a défoncé mes deux portes de glace. Alors aussitôt, je me suis précipité sur mon 22 long rive qui est sous le polochon, le 765 également. Et aussitôt, j'ai poussé ma porte et j'ai vu un individu qui était derrière le comptoir se précipiter sur moi. Tchoc, là, je l'ai allumé en pleine gueule.
Et il y en avait un autre dans la voiture?
Ah oui, c'est celui-là qui m'a tiré avec son pistolet long, genre Colt.
Et vous avez continué à tirer à ce moment-là?
Ah ben, j'ai arrêté. Quand j'ai vu qu'il s'arrêtait de tirer, j'ai arrêté mon 765. Et ils ont démarré en tremble et tout fait allumer la voiture, les phares et allumer à l'intérieur. Hein. Alors la voiture, ensuite, ils ont percuté là-bas parce que, étant naze, vous savez, quand vous avez une balle, un dans le crâne, l'autre dans la poitrine, je ne sais pas juste. Hein.
La voiture s'est écrasée contre un mur?
Entre le garage et le platane.
Et vous avez l'habitude de dormir dans votre arrière-boutique?
Ben, ça fait une dizaine d'années, quoi. Sans quoi, on serait été pillé déjà depuis 4 ou 5 fois, sinon plus. Quoi.
Tous les commerçants, bien sûr, ne surveillent pas leur boutique 22 longs rifles à la main. À Mulhouse, l'association des commerçants forme ses adhérents avec des cours de self-défense.
Nous avons pensé être agréable et être surtout utile vis-à-vis de nos collègues restaurateurs, débitants de boissons, etc., tenanciers de dancing, etc., pour les aider à pouvoir se défendre. C'est-à-dire que nous voulons apprendre à nos adhérents le self-défense. Il n'y a aucun but d'agressivité dans ceci. Ce n'est uniquement que pour la défense que nous avons institué des cours qui sont d'ailleurs produits par un manager qui est un troisième dent. Ceinture noire, qui est lui aussi restaurateur et qui s'est mis à notre disposition.
En 1973, les petits commerçants se battent sur tous les fronts, car ils luttent aussi contre les grandes surfaces qui sont en train de les dévorer tout cru. Cette lutte entre les mammouths et les petites épiceries est l'un des thèmes récurrents des débats de l'année 73. Que préférez-vous? Les hypermarchés qui proposent des prix plus attractifs ou les petits commerces?
Dans une grande surface, vous savez, bien sûr, il y a des produits qui sont moins chers que chez nous, peut-être.
Et puis, il y a aussi le dialogue que vous échangez, toutes les deux. Vous avez l'impression d'apporter un service différent?
Oh oui, quand même, parce que vous savez, vous allez dans une grande surface, vous connaissez personne. Vous remplissez votre sac, vous partez, vous payez, et C'est un peu inconnu quand même.
Alors, il y aura toujours des gens qui préféreront aller chez les petits commerçants.
J'espère pour nous, oui.
En réponse, le ministre du Commerce, Jean Royer, assure qu'il va aider les petits commerces. Il va limiter le nombre d'ouvertures des grandes surfaces. Mais le résultat est décevant, car le ministre accouche d'une loi qui déçoit les syndicats de commerçants. Et résultat, le 15 novembre 1973, la quasi-totalité des petits commerces de France est en grève. Mais les associations de consommateurs n'ont pas aimé cette grève. Ils appellent les Français à boycotter les commerçants qui font la grève. Cet appel sidère le syndicaliste Gérard Nicou, figure de la fronde des petits commerçants.
Déclencher un boycott des commerçants qui ont fait grève, ça voudrait dire que les gens ne vont plus se servir parce que 95% des commerçants ont fait grève. Et puis enfin, dans le raisonnement, je ne comprends pas très bien parce que c'est une atteinte au droit de grève. Nous aussi, nous l'avons ce droit. Pourquoi pas ne pas boycotter aussi les SNCF quand elle fait grève, les PTT, pourquoi pas ne pas boycotter la télévision aussi quand elle fait grève, pourquoi pas ne boycotter. Alors à ce moment-là, il s'agit que la société française ne consomme plus du tout. Et cela est impossible, vous le pensez bien. Non.
Cette lutte entre grandes surfaces et petits commerçants est le sujet de l'un des films les plus populaires de l'année 1973, Le Grand Bazar de Claude Zidi. 3 900 000 spectateurs en salle. Le pitch, la bande des Charlots et Michel Galabru, propriétaires d'un petit commerce, ont le malheur de voir un gigantesque supermarché s'implanter juste en face de chez eux. Grande surface dont le patron est incarné par Michel Sardou.
Alors vous, hein, je vous interdis de remettre les pieds dans mon magasin.
Je vous conseille de venir dans le mien, tiens.
Ah oui, dans le vôtre, dans la moi plus personne. Vous serez en faillite.
En faillite, moi?
Oui, parfaitement en faillite. Et moi, je resterai pour prendre un rond. Vous entendez? J'en ferai une station-service.
Une station-service dans mon magasin? Tiens, voilà votre robe. Saleté. Saleté, sale moustachu.
Mais pas les pieds ici,
je mettrai le pied. Je mettrai le pied. Je mettrai le pied.
Elle court, la maladie d'amour. Dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans, elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants. De 7 à 77 ans, elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 60.
C'était Michel Sardou avec son tube de 1973, La maladie d'amour. Ah ben voilà, nous sommes presque au bout de notre aventure dans l'année 1973. Merci à mes durs, mes tatoués, Guillaume Maury, Julien Pichenet et Boris Paczynski. La suite de notre exploration de l'année 1973 dans le cinquième épisode dont de la traconte une année.
Trouvez On de la Traconte du lundi au vendredi sur Europe 1 et quand vous voulez sur Europe 1.fr, l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.